Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant. Question du
public. Vous êtes sur Cube Radio, vous écoutez le podcast La Zone Payante avec Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette. Steph, c'est maintenant l'heure des questions du public.
Yes!
Ouh! OK. On commence avec Jérôme qui nous pose la question suivante. Après 4 ans comme titulaire pour les Dolphins avec des armes offensives à faire rêver tous les carrières de la NFL, peut-on enlever nos lunettes roses? L'échantillon est assez long pour affirmer que l'homme a sans une excuse, a trop de lacunes et sera au mieux un excellent substitut dans cette ligue. On parle bien sûr de Tua, je présume. Mm-hmm. Les Dolphins vont probablement activer la 5e année de Tua l'année prochaine, comme les Giants ont fait pour Daniel Jones. Ma question, vous êtes le DG des Dolphins. J'aimerais savoir votre plan B pour trouver un carrière pour cette équipe. Merci, Jérôme.
Je suis surpris qu'on lance déjà la serviette dans le cas de Tua là, chez plusieurs amateurs des Dolphins, honnêtement.
Oh, moi là. Pas, là, ça fait 4 ans, c'est pas déjà. Là.
Je pense que t'en es, là, effectivement, puis... Il a démontré vraiment des belles choses quand il était en santé cette année. Là, le problème de commotion, ça devient franchement préoccupant, ça c'est sûr. Et puis c'est pas contre lui, c'est toujours bien pas de sa faute là, s'il subit des commotions. Mais là, il y a une question de santé qui embarque là-dedans, puis d'effet à long terme, c'est possible à un moment donné que soit Tua dise « j'en ai assez » ou que les Dolphins disent « il faut se protéger mieux, il faut avoir une... » Le problème, t'es le DG de cette équipe-là. Là, tu regardes les vétérans disponibles, admettons. Ah, bon, on a parlé de Brady.
Lamar Jackson.
On a parlé de Brady, mais Lamar Jackson, s'il y a un joueur que tu peux convaincre... T'sais, moi, je continue de croire qu'il va rester avec les Ravens.
Il serait fou de le laisser partir.
Tu sais, à moins que les Dolphins fassent un coup à la Browns de Cleveland puis qu'ils offrent un contrat entièrement garanti, là, solide, béton armé. Là, Lamar pourrait se laisser tenter, c'est sûr. Mais est-ce que c'est le type de carrière, tu sais, qui... Encore là, je ne sais pas. Lamar, moi, je l'aime. Il est dynamique, il donne tout un spectacle. Est-ce qu'il va t'amener au Super Bowl? Je ne le sais pas. Jimmy Garoppolo, Geno Smith, Baker Mayfield, tu sais, ça va être eux autres, les agents libres. Ça va être eux autres. Fait que, est-ce que tu es tant mieux? Tu sais, à quel point tu améliores ta situation si tu vas chercher ces gars-là? Écoute, dans le meilleur des scénarios, ça te fait une bataille au camp d'entraînement. Puis ça te fait ensuite une bonne police d'assurance si Tua continue d'éprouver des problèmes de santé. Mais je pense pas que tu as là le corps arrière qui t'amène au prochain niveau. Donc,
oui, mais c'est Tua, facile. On sait que c'est... T'sais, Tua, il est fragile. C'est pas c'est pas quelqu'un qui est capable de tolérer le spotlight. On a toutes vu ses performances en prime time, c'est pathétique. On parle de son bras depuis son entrée dans la NFL. On n'en parle plus là, parce qu'on se dit, ah, il est précis quand même. Là. C'est vrai que tu me dis les autres noms, tu me dis Baker Mayfield, puis.
Les autres qui vont être libres.
Ouais, c'est ça. C'est
à
ça,
moins que là, est-ce que tu vas être assez créatif et avoir les atouts au repêchage pour aller chercher un gros joueur par voie de transaction?
Impossible. Plus possible, ils n'ont plus de choix de première ronde.
Fait que tu sais, c'est moins évident c'est comme situation. C'est facile de dire « Ah, moi, si je suis DG demain matin, je vais chercher lui. » Ouais. Encore faut-il le faire, avoir les ressources pour le faire. Ce ne sera pas évident comme situation à court terme. Puis là, ben écoute, la solution évidente, c'est de dire « OK, on va en prendre un au repêchage. » Là, comme tu dis, ben il y a la question du choix de première ronde. Puis en deuxième ronde, en troisième ronde,
Non,
tu peux tomber chanceux, mais c'est rare quand même que tu as le corps arrière de franchise. Donc, je pense qu'à court terme, ils sont, entre guillemets, pris avec lui. Puis que tu peux amener un vétéran là, parmi ceux que j'ai nommés, par exemple, puis dire, OK, il va avoir une compétition ouverte, ou à tout le moins, ben comme je te disais, tu back tes fesses un peu, là, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit ce gars-là. Tu sais, un peu comme un Teddy Bridgewater, dans le fond. Là.
Oh oui, non, mais c'est écrit dans le ciel ce qui va se passer. Là. L'année prochaine, tu vois, ils vont activer leur cinquième année, ça c'est sûr. Ils vont commencer la saison. Ils vont peut-être, après 4-5 matchs, toute la même vieille machine va recommencer. C'est, là, pour le contrat à long terme, on n'en donnera pas un. Là, il faut commencer à tourner, à regarder ailleurs. Il va jouer peut-être 6-7 matchs en 2023, puis il va être remplacé par deux trois autres corps arrière. Tout va être recommencé. Puis les joueurs comme Tyreek Hill, puis Jalen Waddle vont perdre patience. Puis c'est la roue qui va recommencer. Là. C'est un classique Dolphins. Là. Fait que rien de rose pour les Dolphins dans les 2-3 prochaines années, malheureusement.
Fait que tout ce que je veux dire, c'est que la question « qu'est-ce que tu fais dans le siège du DG? » Je pense qu'il est juste mal positionné en ce moment.
Évidemment.
Ça va prendre vraiment beaucoup, beaucoup de créativité là, pour... Ou un Tua qui soudainement a plus zéro problème de santé puis qui développe sa constance, pas sur une période de 4-5 matchs, mais sur 16, 17.
Comme Jérôme là. Dit, là, il est trop tard. Là. Je dis, ça fait 4 ans, là, on le sait, là, de quoi qu'est-ce qu'on a avec Tua. Là. On peut pas dire on est surpris. Là. Oui, il peut avoir des bons matchs, là, puis aller sur le timing. Là, puis deux, trois matchs où le timing est bon, dès qu'on brise son timing, c'est fini. Julien, je relance ma question. Les Pats, il se passe quoi avec ça? La défensive va bien, mais l'attaque, il n'y a rien qui fonctionne. C'est-tu l'offensive, head coach, le problème?
Ouais, j'imagine qu'on parle du coordonnateur offensif, puis c'est clairement un problème. Matt Patricia, là, t'sais, il fera pas long feu. Ça, c'était la création de Bill Belichick. Là, de, t'sais, on va ramener un assistant qui a connu mon système, puis qui... On va le faire coacher à l'attaque, même s'il a coaché à la défense toute sa vie, puis ça va bien aller. Là. T'sais, ça a été une erreur vraiment critique. Mais là, un des problèmes aussi, c'est que moi, je considère pas que Mac Jones est un joueur en progression. Là,
ben c'est ça, là, c'est parce qu'on blâme Matt Patricia, mais peut-être que lui, il sait ce qui va arriver s'il ouvre la machine.
Là. Ben, on l'a vu en début de saison, ils ont ouvert la machine, les Pats, là, Jean-Nic. C'était beaucoup moins des screens et des petites passes horizontales. Puis Mac Jones se faisait intercepter à tour de bras. Là, il s'est blessé. On l'a ramené dans mêlée avec un playbook vraiment plus vanille, beaucoup plus simplifié, puis ce qu'on appelle le quick passing game, là, des passes très rapides, courtes. Puis là, on se dit, ça produit pas de résultats, c'est la faute à Patricia. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux là-dedans. Patricia fait avec le corps arrière qu'il a, puis Mac Jones fait avec le coordonnateur qu'il a, puis ça s'aide clairement pas. Il va avoir un gros chambardement offensif chez les Pats, c'est sûr. Un vrai coach offensif, premièrement. Je pense qu'on va laisser une dernière année à Mac Jones pour essayer de se faire valoir. Puis, ça va prendre plus de receveurs d'impact. Tu sais, là, on a une brochette de receveurs moyens. Il n'y a pas un vrai numéro un. Aye. Qui menace Jean-Nic la défensive dans ce groupe de receveurs-là? Honnêtement. Toi, t'es le coach des Dolphins, des Jets ou des Bills. Là.
Non, tu prépares pas ton match en fonction d'un wide receiver, mais ça n'a jamais été la recette des Pats anyway, là, par ailleurs. Là. Puis,
ben, ils l'ont eu quelques années. Ils ont quand même eu des Wes Welker, des Julian Edelman, des Gronk, des Randy Moss. Il y a eu des années où vraiment c'était un casse-tête de jouer contre cette équipe-là. Il n'y a rien en ce moment qui t'empêche de dormir si t'es un coordonnateur défensif. Ça, pour moi, là, c'est un problème. Mais le principal, ça reste de trouver un vrai coach offensif. Puis si tu te dis, écoute, Mac Jones, ça va être sa troisième année, on ne peut pas tirer à la plug tout de suite. Tant qu'à ça, équipe-là, donne-y une vraie chance. T'sais, c'est pas avec des Jacoby Myers. Myers, c'est son numéro un là, en ce moment.
Oui.
Ben, des fois, admettre que...
C'est sûr, ouais. C'est pas échard, là, mais c'est quand même des receveurs qui étaient, t'sais, qui sont capables d'exécuter un plan de match. Je dis pas que c'est eux qui vont gagner un match avec 150 verges, mais il y en a pas 10 de ces wide receivers-là dans la ligue. Là.
Des équipes non, qui gagnent
des
pas, matchs
pareils sans des receveurs de passes comme ça. Là. Mais en passant, les Pats, là, ce sont pas. C'est pas la fin du monde. Là. Parce que malgré tout ça, ils contrôlent leur destinée.
C'est pas la fin du monde parce que faut pas faire l'erreur de penser que Bill Belichick s'est plus coaché. Moi, pour moi, il a fait une grosse erreur, c'est de mettre Matt Patricia avec Joe Judge dans ce rôle-là, qui sont clairement pas dans les bonnes bottines. Ça, c'est une erreur. Mais on le voit qu'il s'est encore coaché. La défense, à chaque match, pourchasse les corps arrière comme c'est pas possible. Ils ont deux très bons pass rushers. T'sais, c'est une défense qui peut encore faire des dégâts puis tenir l'équipe dans le match à chaque semaine. C'est clair qu'à l'attaque, ben là, ça ne suit pas le bateau. Là.
OK, Martin pose la question. On parle toujours de Micah Parsons comme joueur défensif de l'année, mais comment écarter Nick Bosa pour la saison qu'il connaît?
Yes, très bon point. Ça va être un gros débat jusqu'à la fin. T'sais, c'est évident que Bosa a la stat qui flash. Là. Il a 17,5 sacs. Souvent, ça, chez les voteurs, ça fait foi de beaucoup. Là où on parle moins de cette stat-là, mais c'est quand même très important de le mentionner, là, les pressions. Tu sais, les pressions, là, c'est que tu cumules soit les sacs, la fois où tu as couru après le corps arrière puis que tu l'as dérangé dans sa pochette, les hits, là, c'est-à-dire que tu frappes le corps arrière, même s'il vient tout juste de se débarrasser du ballon. Quand tu combines toutes ces situations-là, Parsons a 53 pressions sur le corps adverse contre 37 pour Bosa. Tu sais, ça veut dire quand même que Parsons dérange constamment. Mais Bosa, vraiment, il connaît une grosse fin de saison. C'est le moteur de probablement la meilleure défensive de la NFL, à mon avis, les Niners. C'est sûr que ça mérite considération. Si j'avais, moi, à voter aujourd'hui, je pense que mon choix serait Bosa. Mais jusqu'à la toute fin de l'année, là, ça va être un débat.
J'avais oublié mes sifflettes. On passe à maintenant Jonathan qui a une question. Avec une victoire face aux Bills dimanche prochain, les Bengals en seraient à 8 victoires de suite. Devrions-nous considérer les Bengals comme une équipe favorite pour le prochain Super Bowl?
Ben absolument. Pourquoi pas? T'sais, ils sont dans le lot. T'sais, pour moi, là,
Jonathan, on n'en parle pas bien des Bengals. Ouais. Ils ont eu un début de saison moyen, puis après ça, on s'est dit bon, mais c'est les Chiefs puis les Bills qui vont sortir de la division.
En plein ça. Mais il ne faut pas conclure trop vite. Pour moi, là, ils sont dans un lot de 5-6 équipes vraiment sérieuses, pas plus. Le reste, on dirait qu'il y a trop de lacunes. Mais les Bengals, ce que j'aime, moi, c'est non seulement leur momentum, là, mais leur équilibre. Tu sais, je trouve que tu regardes partout dans leur équipe, les gros stats, là, les points marqués sont 6e, les points accordés sont 9e. Au niveau des revirements, ils ont forcé 20 revirements, c'est un bon total. Production dans la zone payante, tu regardes souvent ça. Quelle équipe arrive dans la zone payante puis se contente de petits bottés, là, puis que, bon, t'es toujours déçu parce que t'as laissé des points sur le terrain. Les Bengals sont 6e dans le red zone pour le pourcentage de touchés. En défense, ils sont 7e contre la course. T'sais, je trouve qu'il y a un bel équilibre un peu partout. Ils passent un peu sous silence. C'est un bon point, Jean-Nic, là. C'est comme si tout le monde présume que ça va être Bills Chiefs. Mais tu sais, attention, là, les Bengals ont battu les Chiefs cette année. Là, ils jouent contre les Bills. On va voir un peu de quoi ils peuvent avoir l'air contre eux. Mais ils n'ont vraiment pas eu un calendrier facile, les Bengals. Ils s'en sortent admirablement bien. Moi, je les considère vraiment parmi les candidats sérieux.
Jérôme encore nous pose une question. Quels sont vos vœux de Noël pour Tom Brady?
C'est pas le même Jérôme, hein, en passant.
Jérôme
Jacques, celui-là.
Quels sont vos vœux de Noël pour Tom Brady, Antonio Brown et Russell Wilson? Des souhaits de joyeux Noël et bonne année.
Oh,
commençons par Tom Brady, toi.
Ah, Brady, écoute, moi, je t'en ai parlé tantôt. Moi, j'y souhaite de se retrouver avec Sean Payton la saison prochaine. Que ce soit à Nouvelle-Orléans, que ce soit je ne sais pas où. Je veux voir ça. Je veux voir ça une année avant qu'il soit trop tard, parce que Brady, sans parler qu'il est fini, là, pour moi, il n'est pas fini, mais on commence à sentir des signes de déclin, honnêtement, cette année. Là, c'est pas comme l'an passé puis l'autre d'avant, où on voyait absolument rien dans son jeu qui déclinait. Ce serait vraiment spécial de les voir se retrouver les deux ensemble. Tu sais, un des plus grands esprits offensifs que la NFL a vu dans les dernières années, avec un corps arrière, tu sais, qui a tout le bagage que Brady a. Moi, je veux voir ça.
Antonio Brown, tu lui souhaites quoi?
Pas grand-chose. J'y souhaite de trouver l'aide psychologique qu'il a besoin, là, mais à ce stade-là, j'en doute fortement. Là, je pense que c'est peine perdue.
Ouais. Puis Russell Wilson, ben là, Russell Wilson, ça, c'est le plus facile de la gang. Russell Wilson, Broncos Country. Let's ride. On va lui souhaiter d'atteindre son objectif de la saison et de battre et de gagner son duel entre le nombre de salles de bain qu'il a dans sa maison, qui est à 12, et le nombre de passes de toucher qu'il a fait cette saison. Il est rendu à 12. Imagine-toi donc, Stéphane, que dans le nouveau décompte de la semaine, Russell Wilson est à égalité avec le nombre de salles de bain qu'il a dans sa maison avec ses passes de toucher. Donc, il a une chance de battre. Ce serait quand même pour lui un baume, je pense. Ce serait pour une saison difficile.
Ouais.
Ce serait, tu sais, c'est un objectif qui est à sa portée et ça pourrait finir sur une bonne note, ce qui serait pour lui et pour les partisans des Broncos, là, tu sais, une espèce de contre mauvaise fortune, bon cœur.
Est-ce que tu penses qu'il se lève en pensant à ça le matin?
Ben, je pense qu'il en parle avec ses coachs, là, tu sais. Je pense que une des fonctions là, des coachs, c'est de l'amener à atteindre des objectifs et où il est rendu là, dans sa carrière, c'est clairement une des choses, je pense, qu'il souhaite réussir.
Mm-hmm.
Et on peut pas dire que c'est pas à sa portée. Donc, on lui souhaite bonne chance. Peut-être cette semaine, la semaine prochaine, il devancera en nombre de passes de toucher les toilettes dans sa maison. C'est un vœu que je lui fais pour la nouvelle année, en espérant que ce soit pour lui un accomplissement qui lui donnera un peu un baume au cœur.
C'est émouvant, ça.
Je sais. Je suis comme ça, moi. On y va avec la question. Une question sur la NCAA, Steph.
Oh!
Je vais aller. Pourquoi plusieurs prospects du prochain repêchage se retirent de leur bowl respectif en décembre pour se concentrer sur leur préparation, alors que les joueurs qui participent aux demi-finales ne le font pas et que le match est plus tard que la finale? Est-ce que les bowls ont si peu de signification?
Ouais,
ces joueurs vont quand même jouer les derniers matchs de la saison fin novembre, début décembre.
Mmh. Excellente question. Ouais. Merci, Alexis. Les bowls, effectivement, ça a perdu du lustre depuis l'instauration des séries à 4 équipes. Puis l'an prochain, non, c'est dans 2 ans, on passe aux séries à 12 équipes. Il y a encore quelque chose pour les joueurs dans l'idée de gagner un championnat national. C'est encore un honneur qu'ils peuvent vivre une fois dans leur vie. Un bowl, on dirait qu'il y a tellement de bowls à gauche, à droite. T'sais, dès qu'une équipe a une fiche positive, elle peut être invitée à un bowl. Puis tu regardes, là, les bowls, il y en a un, puis un autre, puis un autre. T'sais, ça n'a peut-être plus le même lustre que ça a déjà eu. Il y a eu des blessures aussi dans des bowls. Vous allez me dire qu'il y en a eu aussi au championnat national, c'est vrai. Mais quand un joueur joue dans l'optique de remporter un championnat national, ça reste différent. Tu sais, la plupart sont habillés. Dans un bowl, ben, écoute, qu'est-ce que tu vas gagner tant que ça? Ouais, on a gagné un bowl. Ouais, tu sais, c'est
mais
pas concret
maintenant.
Mais c'est
la fierté de ton école pour laquelle tu as joué 4-5 ans.
C'est des
revenus aussi pour ton école qui t'a fait vivre dans un programme. Je sais pas, moi je trouve ça ordinaire en chien, là. Je comprends là, l'intérêt du joueur particulier, mais tu représentes ton école qui a mis sur pied un programme, qui l'a financé pour t'accueillir, puis la fois où tu as une chance de remettre à ton université, tu le fais pas.
C'est dommage. Ce que tu dis, c'est vrai. Là. Jamais je vais dire « Ah, ça, c'est n'importe quoi ce que tu racontes là », mais... Tu sais, c'est une époque où les jeunes ont tellement de préparatifs. C'est plus comme c'était avant, là. Les préparatifs pour le draft, c'est tellement énorme. C'est des semaines et des semaines et des semaines. Puis là, quand il faut que tu fasses de la rehab là-dedans parce que tu t'es blessé dans une game qui finalement apporte plus à ton programme qu'à toi, je le sais, c'est égoïste dit comme ça, mais c'est comme ça que ces jeunes-là le pensent. C'est rendu que même leur équipe leur dise « Écoute, tu serais peut-être mieux de pas jouer ».
Non, parce que il y a d'autres façons de représenter leur école. Là, si tu es repêché haut, c'est une fierté aussi pour ton université. Il y a une rhétorique, ou en tout cas, il y a un narratif pour les deux côtés de la médaille, là, mais franchement, un compétiteur, je ne peux pas croire qu'il tourne la page à jouer un bowl, même si c'est le bowl. Enterprise, puis...
oui, il y en a un paquet, comme je disais. Ouais. Mais c'est ça, il y en a qui le font quand même, mais la tendance est clairement vers l'option de ne pas jouer les bowls. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça, malheureusement.
On reconnaît cette sonnerie, c'est le moment Robin.
Chaque semaine,
Robin nous pose une question, et cette semaine, La voici. Tout d'abord, mes sympathies à Jean-Nic pour ses Dolphins. Mais je te l'ai expliqué, Stéphane. Moi, mon deuil est fait. Là, on perd les quatre matchs qui restent. Là, il en reste deux.
Je sais pas. Moi, dans ton deuil, je te sens encore dans la phase de la colère. Donc, je suis pas sûr qu'il est fait.
Non, je suis plus dans l'acceptation. Là. Moi, ce que je trouve malheureux, c'est que pendant les deux prochaines années, là, on va encore être dans le bas-fond puis on va devoir rebâtir en espérant que certains joueurs demeurent. C'est malheureux parce qu'on a une excellente défensive, mais qui n'est pas capable de jouer ensemble. On a plusieurs receveurs de passe qui pourraient être des vedettes pendant les prochaines années qui vont malheureusement croupir dans le fond du classement avec des bonnes stats. Là. Mais c'est triste. Là. Il me dit qu'il compatit parce que lui, il a eu sa valise pleine de frustration avec les Bucks cette année. Mm-hmm. Mais là, les Bucks sont toujours premiers au classement de leur division, à ce que je sache. Ils ont gagné un Super Bowl il y a 2 ans. Robin, tu me feras pas pleurer. Question. Compte tenu de la régression de Seattle, des Giants et de la récente... Non, parce que là, tu sais que les Dolphins, la dernière fois qu'ils ont gagné un match en série, genre New York avait des tours jumelles.
Ouf.
Ça fait quand même un bout. Là.
Mm.
Bon, je reviens à la question de Robin. Compte tenu, tu as raison que peut-être qu'il y a encore une petite pointe de colère là, dans mon... tout à fait terminé mon stade du choc et de la colère.
Tu vas voir, ils vont t'en parler là, dans ta psychanalyse.
Compte tenu de la régression de Seattle, des Giants et de la récente dégelée des Lions, la course au titre de coach de l'année est plus ouverte que jamais. Certains parlent de Shanahan, mais je vois davantage Peterson des Jags. Qu'en pensez-vous?
C'est un bon point. Honnêtement, Doug Peterson, j'aime le point. Écoute, t'es parti d'une équipe tellement minable l'an passé avec Urban Meyer, la joke de la NFL. T'arrives maintenant à te battre pour un championnat de division. Oui, c'est une division faible. C'est ça peut-être qui va jouer contre lui au final. Mais d'avoir redonné le respect à une franchise comme ça, là, honnêtement, c'est un exploit. Là où ça va être difficile de battre, par exemple, un Kyle Shanahan, c'est que il travaille avec son troisième corps arrière actuellement. Ça va lui donner beaucoup de mérite aux yeux de ceux qui votent. Mais Peterson s'est hissé là, assurément dans la course. Là. T'as pas le choix de le considérer.
Ses séries d'abord. Là.
Ouais, effectivement. Si les Jags font pas les séries parce que les Titans finissent devant eux, on sait qu'il y a un match entre les deux clubs, pas cette semaine, la semaine prochaine, la dernière semaine, qui va décider du championnat de division, peu importe ce qui se passe cette semaine. Ça va être déterminant là, dans est-ce que Doug Peterson a amené son équipe suffisamment loin. T'sais, s'il ne l'amène pas en série, ça va être difficile. Peut-être qu'il peut être considéré dans les nominés, là, par exemple, mais ça va être dur d'aller chercher les votes. Mais oui, il s'est dans la course là, de belle façon cette année. Quand tu compares avec ce qui s'est fait l'an passé, là, ça y donne beaucoup, beaucoup de mérite.
OK, merci, Steph. C'est la fin de la période de questions des auditeurs. Vous pouvez nous rejoindre assez facilement sur les médias sociaux. Vous pouvez nous interpeller. Sinon, vous pouvez nous écrire sur le site, sur la page Facebook, nos précieux conseils fantasy. D'ailleurs, on souhaite bonne chance à tous ceux qui ont une finale en fin de semaine, dont moi. Et vous pouvez aussi nous écrire par courriel. À quelle adresse, Steph?
La zone payante à commercialquebecormedia.com.
Après la pause, c'est la semaine 17, les prédictions de vos experts. Bougez pas.